Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Dort encore le jeune homme. Il a l'air doux, la tête droite, les yeux fermés, les lèvres légèrement ouvertes. Les draps laissent voir une poitrine nue. Il a les mains au-dessus de la tête. Frédéric le trouve bien comme ça. Et se dit qu'il pourrait servir de modèle pour un tableau. Se met sur un coude et le regarde. Il ne sait pas l'heure qu'il est. Ça n'a pas d'importance. Parce qu'il a décidé de vivre comme ça en dehors de tout. Comme on est bien. Plus de soucis. Plus de peur de rater un rendez-vous, plus d'obligations et surtout plus de famille. Oui, bien sûr, il y a maman. Mais sa mère, il ne pourra peut-être aller la voir plus tard. Son camarade se réveille, il ouvre les yeux en faisant la grimace. Et bâillant. Frédéric se dit que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un se réveiller. C'est comme s'il revenait du monde des vivants. Dans le monde des vivants. Pendant un temps, son âme a quitté son corps. Et maintenant, elle est revenue. Le jeune homme Laurent le regarde et lui fait « Salut, salut, ça fait longtemps que tu es réveillé ?» Frédéric lui dit « Non, me regarder dormir ?»« Oui, c'est la première fois que je vois quelqu'un dormir et se réveiller. C'est bizarre. Toi, quand tu dors, tu as l'air de quelqu'un de traits inconscients, innocents, purs. Et lorsque tu te réveilles, on dirait que tu retournes à la vie. » Laurent lui dit, « Nous sommes tous pareils, toi aussi. »
Bien dormi ?
Oui, mais un peu courbaturé. » Laurent lui dit, « Ça, c'est de ta faute. Tu aurais dû coucher avec moi. » « Et pour ne pas te gêner ?» Laurent demande. « Qu'est-ce que tu vas faire ce matin ?» Frédéric lui dit. « Je ne sais pas. » Laurent lui dit. « Eh bien, levons-nous. » Lève tous les deux. Frédéric, malgré lui, voit les formes de Laurent. Il le trouve très beau. Laurent lui dit. « Tu vas dans la salle de bain, le premier. »« Oui, merci. Viens, je vais te montrer. » Et ils sortent de la chambre. Et Laurent lui ouvre une porte. C'est plutôt une salle d'eau. Tu prends une serviette rose pour te sécher. Elle est propre. Tu peux te servir à mon rasoir. Tu te rinces? Non, pas encore. Tu as encore tout genou alors? Frédéric lui dit. Et toi, tu te rinces? Oui, faut par semaine. Et il le laisse. Il n'y a pas de baignoire. C'est une petite douche minuscule. C'est gênant de se laver chez des gens. Se déshabiller. Prend une serviette rose, la met sur le lavabo et entre dans la douche. Il a des difficultés à régler l'eau. Enfin, il y arrive. Il doit tenir le pommeau à la main parce que le porte-pommeau est cassé. Il sort de la douche et donne un coup de jet dans la baignoire, enfin dans la douche. Et s'essuie. La serviette est un peu rêche. Puis il s'habille. Et il sort de la salle d'eau. Dans le couloir, il retrouve Laurent, toujours en slip, qui attend son tour. Il lui dit « À moi maintenant !» Et il rentre dans la salle d'eau. Il ne ferme pas entièrement la porte de la salle d'eau. Malgré lui, Frédéric le voit. Quitte son slip. Et va dans la douche. Sa nudité n'est pas violente, terrible comme celle d'Eric. Non, la sienne est douce, calme. Frédéric se dit qu'il a un beau corps. Une fois qu'il est fini de se laver, il s'essuie et sort de la salle d'eau. Il dit, bon, et bien maintenant nous allons à la cuisine manger quelque chose. Viens. Il le mène à la cuisine. Tiens, assieds-toi à table. Il s'assoit à table. Tu prends du café? Oui. Laurent prépare le café. Il demande à Frédéric, et maintenant que comptes-tu faire? Frédéric lui dit, je ne sais pas, rien, ou peut-être vivre comme ça. Laurent lui dit, je ne peux pas malheureusement t'héberger. Tu sais, je gagne pas d'argent, j'en dépense plutôt, mes cours de théâtre coûtent cher. Frédéric lui dit, je comprends, mais je ne te demande rien, et je trouverai bien tout seul. En servant le café, l'intense, qu'il a pris dans le buffet, des tasses, grosses tasses, plutôt pour le chocolat, et lui dit, tu peux venir me voir quand tu voudras, et nous pourrons passer la nuit comme ça. Merci, il lui demande. Tu prends quelque chose avec ton café? Un morceau de pain. Laurent prend la panière et la met sur la table. La panière qui était sur le buffet, la met sur la table. Frédéric se dit, la vie est simple chez lui. Et Laurent s'assoit en face de lui. Dit, tu es jeune, cherche à voir par toi-même, c'est pas facile, et puis tu risques de te faire attraper par la police. Si c'est pas la police, ce sera peut-être des voleurs d'organes ou d'enfants, d'adolescents. Tu vas être constamment obligé de te cacher, et la nuit, où iras-tu dormir? Tu es tombé sur moi, mais tu aurais pu tomber sur un autre et ça n'aurait pas été la même chose. Frédéric lui dit, je sais, mais qui te dit que je n'ai pas autant, je ne suis pas autant, enfin, comment te dire, je risque autant avec ma famille, si tu savais. Laurent lui dit, je ne sais pas, mais si tu as des ennuis, il faut que tu demandes de l'aide. Frédéric lui dit, personne ne fera quoi que ce soit, parce que mes parents sont très puissants. Laurent lui dit, c'est les Francs Blancs? Non, pas aussi puissants qu'eux, mais puissants tout de même. Moi, je ne connais qu'eux comme puissants. Ils peuvent tout, ils ont tout. Frédéric lui dit, nous, parce que nous sommes associés. Laurent lui dit, alors, tu n'as rien à, tu risques rien, car dans ta famille non plus. Frédéric lui dit, tu sais, les familles riches ont leurs secrets, et des secrets bien plus terribles qu'ailleurs. Leurs crimes, ils les cachent sous l'or et la fourrure. » Laurent lui dit, « Tu as sûrement raison. Les pauvres n'ont pas les moyens de cacher leurs secrets ou ils les cachent mal par manque de moyens. Je suis sûr que tu as été la victime de quelque chose. Il suffit de voir ton visage d'ange et de t'entendre parler. Tu parles comme un vieux avec un visage d'enfant. Fais comme tu veux. Si tu crois que tu es plus en sûreté dehors que dans ta famille, mais si tu veux, tu peux me dire ce qui t'est arrivé. » Frédéric lui dit, « C'est tellement en dehors de tout, tu ne peux pas comprendre. » Laurent lui dit, « Nous sommes tous pareils. Je suis comme toi moi aussi, donc je peux comprendre. » Frédéric lui dit, « Tu ne peux pas te mettre à ma place. Ce que je ressens, c'est tellement en dehors de tout. Tu es un être humain, donc, comme je suis, comme toi, je peux comprendre. » Frédéric lui demande, « Tu as un frère ?»« Non. » »« Eh bien, moi, oui. Il est plus grand que moi et, depuis toujours, il veut que je sois sa chose. Il me fait des aurores toutes les nuits. » Laurent comprend. Il lui dit, « Dénonce-le à tes parents. » Frédéric lui dit, « Mes parents ne s'occupent pas de moi. Ma mère est très malade, mon père toujours en voyage, et mes grands-parents sont de vieux cons égoïstes qui ne nous aiment pas. » Laurent lui dit, « Je comprends. Si tu veux, je peux lui donner une correction à ton frère. » « Non, et puis après, il m'en donnerait une. Tu ne peux pas toujours être près de moi. » Alors, tu vois, je ne peux pas y retourner. » Laurent lui dit, « Tu feras comme tu voudras. » Enfin, tu me donneras tes nouvelles. » La porte de la cuisine s'est ouverte. C'est la mère qui entre, est en robe de chambre, froissée, rose. Elle leur dit, « Vous êtes déjà levés ?» Laurent lui dit, « Oui, mère, nous allons sortir. » Elle demande, « Ton ami, il reste combien de temps avec toi ?» Laurent lui dit, « Ne fais pas de soucis, il s'en va. Il est juste resté là la nuit. » La mère ouvre le buffet pour prendre un bol. Une cuillère et se sert du café. Puis elle s'assoit. Elle demande, « Vous êtes comédien ?» Frédéric lui dit, « Non, pas vraiment. » Elle dit, « Comme mon fils, il apprend le métier. Peut-être qu'un jour je le verrai dans un feuilleton télé. » Laurent lui dit, « Non, surtout pas, maman. Je ne veux pas. Je ne veux pas passer toute ma vie au commissariat. Ils n'ont que ça à nous proposer à la télé. » Laurent se lève. Frédéric aussi. Laurent dit à sa mère, « Allez, on te laisse, maman. Vous allez où ?»« Je sais pas. Tu rentres pour dîner ?»« Oui. » Il embrasse sa mère. Frédéric lui serre la main et lui dit, « Merci pour tout, madame. » Et ils sortent de l'appartement. Dehors, Laurent dit, « On ne reste pas ici, on va à Paris. » Et il se dirige vers la gare pour prendre le train. Une heure plus tard, ils déambulent tous les deux dans les rues de Paris. Laurent lui demande « Tu vas rester à Paris ?»«
Oui, je crois. »
« Et qu'est-ce que tu vas faire toutes tes journées ?» Frédéric lui répond « Je ne sais pas, traîner dans les rues, chercher à me nourrir et voir l'avenir. » Laurent demande « Et pour plus tard, je verrai. De toute façon, personne ne connaît l'avenir, même les gens qui ont tout. Je verrai bien. Je vais vivre en dehors du monde ou plutôt des gens, des hommes. Je veux essayer d'être libre. » Laurent lui dit « Libre ? Sans argent ? Toujours à chercher ? À se nourrir ? Est-ce la liberté ?» Frédéric lui dit « Ce sera mon travail ? Les autres aussi travaillent pour se nourrir constamment. » Laurent lui dit « Alors quelle différence ?» Frédéric lui dit « Moi je le fais comme je veux et lorsque je décide d'arrêter, ça ne regarde que moi. » Laurent lui dit « Mais si tu décides d'arrêter ?» Frédéric lui dit « Je sais, j'arrêterai tout. La scène me suffira, une simple corde. Mais avant, j'aurais essayé de vivre en dehors des hommes, des lois, de tout, et même des apparences, parce que je veux voir ce que je souhaite voir. Je veux que ma vue, comme ma vie, soit brouillée. » Laurent lui dit « Comme Rimbaud ?» Frédéric lui dit « C'est étrange que tu me dises ça, j'aime Rimbaud. » Lui est allé au-delà des apparences. Laurent lui dit « Et tu commences ta nouvelle vie ? Quand ?» Frédéric sourit, tourne sur lui-même et dit « Maintenant, allez !» Il jette son cartable à terre et il s'éloigne, les mains dans les poches. Il entend derrière lui Laurent qui lui crie « N'oublie pas de me donner tes nouvelles ! Nous passerons une journée ensemble, de temps en temps !» Sans se retourner, Frédéric lui dit « Oui, promis !» Laurent ramasse son cartable et le regarde s'éloigner, disparaître dans la foule matinale. Il ouvre le cartable, prend un cahier, c'est le cahier de test, il ouvre et lit son nom. Frédéric Borsch, c'est ce qu'il voulait savoir. Il remet le cahier dans le cartable et s'en retourne chez sa mère. Frédéric, la fraîcheur du matin, le calme au milieu de la foule, ne sent pas la présence de quelque chose qui risquerait de lui faire du mal. Pour la première fois, il se sent libre, libre d'aller, venir. Il se sent bien. Il a l'impression de n'avoir aucun souci, rien. Pas la moindre contrainte. C'est beau la vie. Sans importance. Sans appartenir à personne, il marche un bon pas. Il ne sent pas ses pieds. Il ne sait pas où il va. Et puis il s'en fout. Oui, il s'en fout complètement. Il sourit à la journée parce que c'est la première fois de sa vie qu'il est vraiment heureux. Oui, heureux, très heureux. Il n'a jamais connu l'insouciance, toujours été sur ses gardes à cause de son frère, sa famille, l'école. Toujours pensé à après, à ce qu'il va lui arriver, à être sur ses gardes. Là, par la peur qu'on vienne et qu'on saute sur lui pour lui faire du mal. La peur qui vient à l'improviste. Non, il est libre, libre. Tout son temps est à lui, son corps aussi. Il sourit. Cette liberté, l'ivresse, elle le rend presque malade, comme une personne qui n'a pas l'habitude de boire du vin et qui en boit pour la première fois. Une goutte et c'est parti. Lui est parti et se dit, je suis parti dans la vie, la vraie vie, ma vie, enfin heureux. Oui, enfin heureux. Il voit ce qui l'entoure, la vie, la ville, le monde, d'un œil neuf, et voit tout plein de vie, de joie. Tout est plus net, plus lumineux, plus coloré. Pourtant, ce qu'il voit, ce n'est pas très beau, ni lumineux, ni coloré. La ville, Paris, est une ville délabrée, comme je vous l'ai déjà décrite plus d'une fois. Les gens sont tristes pour la plupart et sales. Mais Frédéric ne voit pas les choses comme ça. Son ivresse lui fait voir la Seine bleue, alors qu'elle est grise et sale, remplie de détritus et de vieux arbres, de vieux troncs d'arbres. Le ciel bleu, sans les nuages, alors qu'il y en a. Les façades des maisons, belles, alors qu'elles sont délabrées et ont des trous sur les façades, des trous de balles. Non, pour lui ce matin, tout est beau. Et il l'a décidé comme ça. C'est voir les choses comme il l'a décidé. Il marche pendant des heures, comme ça, en longeant le quai de la Seine. Il fait attention de ne pas aller du côté de ses parents, ni du côté de son lycée. Il ne veut pas penser à eux. Pour lui, c'est du passé. Au bout d'un moment, il est fatigué de marcher, s'assoit sur un banc, sur les quais. Vient s'asseoir près de lui un petit garçonnet d'à peu près 8-9 ans. Habillé pauvrement, avec une casquette de marin et une veste marine. Il dit bonjour et lui sourit. Il a l'air touchant avec ses cheveux qui ondulent, son joli visage. son petit nez et ses yeux bleus profonds, on dirait un ange. Il a un sourire si délicieux. Il n'a pas l'air très coquin. Frédéric se demande ce qu'il fait tout seul. Le petit lui dit, « Je m'appelle Didier, et toi ?» Frédéric lui dit, « Qu'est-ce que tu fais ici tout seul ?» Didier lui répond, « Je suis enfui de chez mes patrons. Je suis orphelin et m'a mis dans une ferme. Le fermier était violent. Et j'en ai eu marre. Ce matin, je suis monté dans une camionnette, à l'arrière, en cachette, au milieu des légumes. Les légumes qu'il amenait à la ville pour le marché. Il s'est arrêté ici. En sortant de la camionnette, j'ai bien failli me faire prendre. Mais j'ai couru très vite. Et toi ? Frédéric lui dit. Moi aussi, je me suis sauvé de chez moi. Il le regarde bien, lui dit. Tu es grand ? Oui, mais les grands aussi ont des ennuis. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Didier lui dit, je sais pas, je verrai bien. Frédéric lui dit, si tu veux, on se met ensemble, à deux c'est mieux, non? Didier lui dit, oui, je veux bien. Et ils passent la journée ensemble, se promènent, regardent les gens, aller, venir, travailler, grande partie de plaisir. Parce que l'enfant réagit comme un gosse, ça rend gosse Frédéric.
We don't do have no fuss. For after some consideration, we can stay. Consider yourself one of us. Consider yourself at home.
Lorsqu'ils ont faim, ils prennent sur les étalages des fruits, gâteaux, et courent comme des gosses.
Twice to be handy with a rolling pin when the landlord comes to call. Yeah.
La journée se passe comme dans un enchantement, entre les grands boulevards, les quartiers populaires pleins de vie et les quais. Malheureusement, la nuit tombe, il y a de moins en moins de monde dans les rues. Ils sont ainsi, tous les deux, sur un banc, sur les quais, à se reposer. Ils se sont assis tous les deux sur un banc à se reposer. Didier dit, on s'est bien amusé, hein? Oui, bien. Didier demande, on va dormir où? Je sais pas. L'enfant lui dit, alors ici. Tout d'un coup, Frédéric se souvient de ce que lui a dit Laurent, les enlèvements et tout. Il lui dit, non, la nuit c'est dangereux. Il faut c'est trouver quelque chose pour dormir. L'enfant demande où? Je sais pas. Passe devant eux un jeune d'à peu près 14 ans, maigre, cheveux châtains en désordre, casquette, habillé de vêtements trop courts pour lui, veste et pantalon gris, chemise qui a été blanche, gilet à fleurs, brodequin cuir, avec pas de chaussettes. Le garçon n'est pas beau, mais il a un côté qui attire. Après avoir tourné autour d'eux, en sifflotant, les mains dans les poches, il se met vers eux et leur dit « Salut, vous êtes ensemble ?» Frédéric lui dit « Oui, c'est bien, qu'est-ce que vous faites ?» Didier lui dit « Rien. » Je leur demande « Vous avez un endroit pour dormir ?» Passer la nuit? Frédéric lui dit, non. Je ne réfléchis. Et dit, moi je connais quelqu'un qui héberge des gens comme vous. Il faut être sérieux. Il ne prend pas n'importe qui. Il les regarde bien et dit, avec vous ça pourra aller. Frédéric demande, Et pourquoi est-ce qu'il nous hébergerait? Il ne nous connaît pas et on n'a pas d'argent. Le jeune lui dit, parce que c'est un homme bon et il aime faire plaisir. Et puis, je suis son ami. Alors, si vous venez avec moi, Frédéric demande, et pourquoi nous proposes-tu tout ça? Parce que vous m'êtes sympathique, je m'appelle Lafouine. Didier lui dit, c'est pas un nom. Le jeune hausse ses épaules et lui dit, et alors, toi c'est Didier, moi Frédéric. Le jeune dit, eh bien moi Lafouine. Allez, venez avec moi, il fait nuit. Frédéric réfléchit et se dit que de toute façon, il ne sait pas où coucher. Et à Didier, oui, on y va. Et ils se lèvent tous les deux. Lafouine dit, suivez-moi, et ils le suivent. Ils traversent le quai, prennent une rue populaire et marchent. Les rues sont de plus en plus sombres, étroites, lugubres. Il y a de moins en moins de monde. Les rues sont de moins en moins éclairées. Les maisons sont vieilles, sans âge, délabrées. Il y a des étendages aux fenêtres, des chats, des chiens qui ont la queue basse. La chaussée est pavée. Ça sent l'urine. Dans les rigoles traînent des détritus qui viennent des poubelles. Sur le trottoir qui ont débordé de saleté et tombé à terre, il y a des rats qui passent. Frédéric dit, c'est lugubre. C'est là que ton ami habite ? Lafouine lui dit. Oui, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Frédéric se demande s'il ne fait pas une bêtise. Il ne veut pas abandonner son jeune ami. Il continue à marcher. Il continue à marcher dans ces rues lugubres. Puis, petit à petit, les immeubles se font rares. De plus en plus rares, sont remplacés par des maisons. Sur la chaussée, il y a des rails de chemin de fer. Le pavé disparaît de plus en plus. Et est remplacé par de la terre et de l'herbe. Les rails sont sur la terre et l'herbe. Au fur et à mesure que l'on avance en suivant les ruines, des rails rouillés, les bas-côtés montent et se remplissent d'herbe. On est dans un creux et l'on ne voit rien. Frédéric demande. On va loin comme ça? La fouine lui dit. Non? Frédéric demande. On est où? C'est le parcours de la petite ceinture. Le train a été supprimé. On voit les rails. Pour aller chez mon ami, il faut suivre ce parcours. Pour vivre heureux, vivons cachés. Continue à marcher. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.